Ravagée du zigouigoui, Mutterschwein, Mère Zizi, Mariana Barbet a été affublée de nombreux surnoms pendant ses années au service de la santé sexuelle. C'était au siècle passé. Aujourd'hui, elle en rit, parce qu'elle sait bien que son engagement ne se résume pas à ça. Co-fondatrice de Santé Sexuelle, elle est surtout passionnée de récits, ceux des femmes qu'elle a côtoyées dans les consultations ou planning familial, la parole qu'elle a portée haut et fort pour le droit de choisir, les témoignages qu'elle a recueillis dans les médias, les mots qu'elle imprime encore, à 90 ans, dans un livre, pour esquisser l'intimité au grand âge.
Dans toute relation où on vieillit ensemble, il faut continuer à se toucher, laisser une grande place au contact physique, quel qu'il soit.
Elles ont façonné notre paysage militant-roman.
Ils ont été activistes,
des petites mains, des acteurs politiques régionaux.
Tous se sont battus pour un monde plus solidaire, inclusif, anticapitaliste, parfois il y a plusieurs décennies.
Et elles font partie des militantes d'une autre génération.
Notre vieille garde.
Alors je vais commencer par la fin. Je dis souvent je suis de nationalité lausannoise. Mais avant cela, je suis née en Caroline du Nord, aux États-Unis, mais j'ai grandi dans le Connecticut. Il faut le prononcer comme il faut, c'est pas Connecticut, c'est Connecticut. Mon père était sociologue et théologien, et il avait un poste à l'université de Yale. Et donc j'ai grandi là, dans un quartier résidentiel, enfin, une vie américaine assez typique, privilégiée, ça c'est sûr.
Son père était très engagé.
Il militait énormément pour les droits civiques des Noirs et pour l'intégration aux États-Unis. Très engagé aussi, du côté des mouvements, de syndicats, ce qui concernait les relations industrielles aussi avec les églises, puisque son point de vue était toujours celui d'un théologien. J'ai beaucoup entendu en sourdine tous ces mots, syndicat, McCarthy, et donc avec un petit intérêt assez jeune pour la politique américaine et pour l'Europe.
Sa maman, elle, occupait plutôt la place que l'on réservait aux femmes du début du siècle passé.
Ma mère était femme au foyer, vraiment. Elle essayait de se faire une place comme femme de professeur, mais c'était toujours femme d'eux. Et c'était pas pour moi un bon modèle. Dans ce sens-là, elle était assez passive aussi. Je pense qu'elle était malheureuse. Donc moi, j'ai passé ma jeunesse à chercher des modèles féminins. Quand je regardais les journaux, et je me rends compte que c'est absolument resté. Quand je regarde un journal aujourd'hui, s'il y a une photo de femme, je regarde. Si c'est des hommes, je regarde selon le titre de l'article.
Sa mère avait pu planifier ses grossesses. Dans les années 30 états-uniennes, certaines femmes avaient donc accès à la contraception, même si cela restait assez tabou.
Moi, j'ai quand même grandi avec l'idée que, oui, ça existait. Et je me souviens même qu'un jour, on nous a emmenés en classe au gouvernement de l'État, ce qui serait le grand conseil, si vous voulez. Et horreur, le débat était sur le contrôle des naissances. Alors nos professeurs qui nous accompagnaient nous ont sortis de là tout de suite. Mais après, on a posé des questions. Je pense que j'avais 13 ans, peut-être 14 ans. On a essayé de comprendre, on ne comprenait pas très bien, parce qu'on avait encore un petit peu l'idée qu'on fait l'amour pour avoir des enfants, puis après on ne fait plus. Donc on ne voyait pas tout à fait la nécessité de tout ça, mais je crois qu'on a quand même assez vite compris. Et puis dans le Connecticut, il y avait deux États aux États-Unis à l'époque où la contraception était interdite, vraiment interdite sous toutes ses formes. Donc il y avait déjà des actions militantes pour changer ça. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des discussions avant d'arriver à l'université, en fait.
Mariana étudie la philosophie, mais c'est aussi à cette époque qu'elle rencontre celui qui deviendra son mari.
J'étais à l'université et puis je m'ennuyais un peu, je n'aimais pas l'ambiance, j'avais besoin d'un break. Et mon père était très actif dans le conseil œcuménique des églises. Donc, il connaissait bien Genève et l'Institut œcuménique qui se trouve à Céligny. Donc, en 1956, il m'a trouvé une place de jeune fille au père, au fond. Enfin, aide de ménage serait plus juste. Et donc j'ai passé 8 mois à Céligny, en Suisse, en 1956. Et puis ensuite je suis retournée aux États-Unis. Mon père était l'hôte du comité du Conseil œcuménique des Églises cet été-là. Et mon futur mari, suisse, était traducteur pour cette grande conférence. Et puis comme il n'y avait pas besoin de traduire, parce que la plupart des gens étaient vraiment, parlaient anglais, ils venaient traîner au bureau où moi je tenais la caisse. Donc voilà, et puis on est tombés amoureux, on était les deux encore aux études. On a passé 4 mois séparés, et puis après on s'est retrouvés en Suisse pour le mariage. Ça s'est passé très vite.
Elle y reste finalement en Suisse. Et 10 ans plus tard, à la fin des années 60, la question de la santé sexuelle arrive dans sa vie.
Je tombe dedans parce que je faisais partie d'une commission féminine de l'Église libre, qui existait encore, c'était avant la fusion des deux églises réformées. Et puis cette commission féminine a décidé d'empoigner la question de la planification des naissances, dans le cadre du mariage, le couple. On avait l'idée que si on pouvait résoudre les conflits sexuels, les difficultés sexuelles dans les couples, on arriverait à stopper, en tout cas, l'augmentation des divorces qui commençait dans ces années-là, parce qu'on avait justement l'idée que la cause des divorces, c'était la vie sexuelle.
Un bon point de départ pour aborder ces questions, selon Mariana.
Mais pourquoi pas ? L'idée, c'était favoriser l'harmonie du couple. C'était la grande phrase. L'harmonie du couple, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, moi je ne suis pas sûre de savoir, mais on était assez idéalistes et surtout on n'avait pas beaucoup de connaissances. Il n'y avait pas de livres, il y avait un manuel qui s'appelait « Le mariage parfait » où il y avait quand même quelques explications sur comment il fallait faire, mais pas beaucoup. Et puis on était tous, même ceux qui sont devenus des professionnels de la question de la santé sexuelle, mais à l'époque, on ne savait pas grand-chose. Il a fallu tout apprendre un peu sur le tas, avec quelques formateurs qui ont été exceptionnels. Donc, voilà. Et alors, les commissions féminines, aussi bien de l'Église nationale que de l'Église libre, ont commencé à justement s'intéresser à ces questions-là. C'était dans l'air du temps. Il y avait eu le rapport Kinsey dans les années 50 aux États-Unis.
Les enquêtes sur la sexualité aujourd'hui, les rapports Kinsey ou l'Occident face à son intimité.
Masters et Johnson, c'était les années 60.
How does an orgasm feel for a woman?
Go ahead.
Fantastic.
C'était vraiment dans l'air du temps, on n'a rien inventé dans ce sens-là. En Suisse romande, il y a eu des pionniers comme le professeur Geisendorf à Genève. Et puis à la maternité du CHUV, il y avait depuis 1965 une consultation de planning familial.
Mais tout est encore à faire.
Nous avions une jeune amie, la fille d'un collègue de mon mari en France, qui est tombée enceinte aux États-Unis comme jeune fille au père, une relation sans lendemain. Elle avait tout mis sur pied pour venir en Suisse pour un avortement, une interruption de grossesse. Mais ses parents se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez leur fille. Donc elle a avoué et ils l'ont obligée à garder la grossesse. Mais là, je me suis juré, non, ça ne doit pas exister, ça. Ça ne doit pas exister. Alors je suis tombée dedans, comme vous dites.
Au début des années 70, 50 à 60 000 femmes ont recours à un avortement chaque année en Suisse, dont près de 40 000 sont pratiquées illégalement. Le code pénal interdit l'avortement. Mais il l'autorise si la santé ou la vie de la mère sont en danger.
Sur demande de la femme et de son médecin, une commission ou un expert désigné par les autorités délivre une autorisation d'interruption de grossesse appelée avis conforme.
C'était effectivement un petit peu le parcours du combattant, mais c'était quand même possible. Et possible dans des bonnes conditions. Et quand il y a eu les centres de planning familial, les consultations, ça permettait d'avoir un accompagnement hors médecine, en quelque sorte, ce qui permettait beaucoup d'aplanir les choses, Mais c'était, de toute façon, c'est toujours une épreuve, ça. Une parenthèse, je pète un câble, si je peux dire, chaque fois que j'entends quelqu'un dire « Vous, vous êtes pour l'avortement, personne n'est pour l'avortement. » Tout le monde reconnaît que c'est un moment difficile, pour dire le moins, voire une véritable épreuve. Et un regret, souvent, mais qui s'impose. On a été pour la libéralisation et du choix. Maintenant, la contraception, c'est une autre histoire. La publicité était interdite pour la contraception. Mais on pouvait acheter la pilule dès qu'elle était disponible sur ordonnance médicale. Et puis, les diaphragmes, les préservatifs, tout ça était en vente libre. Donc, ce n'était pas impossible.
Préservatif masculin, où est-ce qu'on se le procure si on en a besoin?
C'est une pharmacie,
Oui, pour une ordonnance médicale, bien.
Non.
Non, c'est en vente tout à fait libre, donc c'est facile de l'avoir. Mademoiselle, vous aimez, j'aimerais bien le préservatif. Bon, au fond, c'est pas gênant du tout. Moi, je crois que c'est beaucoup plus gênant de faire un enfant à une fille qui n'en veut pas que d'affronter une vendeuse de pharmacie, même si elle a l'air un peu grâche, et puis de lui demander ça.
Ce qui était difficile, c'était l'information. Les gens n'étaient pas toujours très au courant.
Mariana comprend très tôt que c'est par là que tout commence.
Un jour, j'ai téléphoné au directeur de la santé publique de l'époque en lui disant « Monsieur Burnet, j'ai appris que vous aviez plein de documents en anglais sur le planning familial, que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Voulez-vous que je m'en occupe ?» J'avais un culot. Mais ça a marché. Et comme ça, j'avais un petit pied dans la porte, déjà, des institutions qui étaient en train de se créer. Et puis, j'ai fait la formation ensuite de conseillère en planning familial.
Dans les consultations, son rôle est surtout d'informer, informer les femmes, les jeunes femmes. Mais très vite, elles se rendent compte que cela ne suffit pas.
C'était un peu idéaliste aussi de penser qu'il suffisait que les gens soient au courant pour que tout se passe bien. Le rôle, en fait, c'était d'entrer un petit peu dans l'histoire de la personne et essayer de voir ce qui pouvait empêcher une bonne utilisation. Est-ce que c'était des peurs? Est-ce que c'était des interdits? Est-ce que c'était une relation de couple difficile? Pour que ensuite la partie médicale, médicalisée, même s'il s'agissait, bon, il ne s'agissait pas encore beaucoup des préservatifs, d'une part parce que ça dépendait des garçons, et nous on voyait surtout les filles, et puis après, il n'y a pas encore le sida quand on a commencé, donc le préservatif n'était pas tellement d'actualité. Mais pour parler des débuts de la pilule surtout, c'était le stérilet parfois, il fallait prendre du temps surtout, pour discuter et que les gens se rendent compte qu'il n'y avait pas de jugement, que c'était une chose qui pouvait se faire et qui devait se faire pour éviter d'autres ennuis, tout simplement. Ouais.
En parallèle des consultations, elle sillonne la campagne vaudoise pour faire de l'éducation sexuelle dans les classes. Nous sommes en 1970.
À Bétang, dans ce village qui se trouve en plein cœur du Gros de Vaud, l'expérience d'éducation sexuelle pour les enfants était tentée voici un an, sur l'initiative de la paroisse. Et d'ailleurs, nous attendons ici une dame de Lausanne, Madame Barbet, qui a vécu longtemps aux États-Unis et qui va, dans quelques instants, rencontrer des enfants de 11 ans dans ce petit collège.
Vous savez ce qu'un petit garçon a dit quand il a vu une petite fille nue pour la première fois?
Qu'elle n'était pas la même chose.
Qu'elle n'était pas la même chose, d'accord. Mais moi, j'en connais un qui a dit, eh ben, ça, alors les filles, ça casse tout. Vous savez pourquoi il a dit ça? Il s'était imaginé que la petite fille, elle avait eu un petit zizi comme lui, et puis qu'elle avait cassé. Les filles, ça casse tout. Vous croyez que c'est ça ou bien?
Non.
Non, hein? Vous êtes d'accord, c'est pas comme ça que ça se passe.
Bon, mais ça, c'était formidable. C'était formidable, j'ai vraiment adoré ce travail-là. C'était pas toujours facile, parce que beaucoup dépendait de la façon dont on avait été déjà annoncé par les profs, le climat dans la classe, déjà ça changeait beaucoup d'une classe à l'autre. Mais en tout cas, avec les jeunes classes, on voyait les enfants de 10-11 ans, là c'était très spontané, on arrivait à les faire parler assez facilement, poser des questions. Je me souviens, dans une classe, il y avait eu quelque chose comme 52 questions pour 2 heures de cours. C'était sportif. Mais ce qui restait de ça, ça, j'en sais rien. Mais il y avait quand même l'idée qu'on pouvait en parler. Donc c'était le message, c'était ça. Moi, j'en garde un très, très bon souvenir.
Je trouve merveilleux qu'on fasse ces choses-là à l'école, qu'on donne des conférences, je trouve très bien. Très, très bien, parce que je suis sûre qu'il y a certaines mamans qui ne disent rien à leurs enfants, vraiment.
Et puis moi, j'allais beaucoup aussi dans les soirées qui étaient organisées pour les parents. J'arrivais à garder de bonnes distances, généralement, parce qu'on était souvent contestés, ou avec des questions rudes, ou bien des choses émotionnelles, difficiles. Ou alors, dans des quartiers chics de Lausanne, où on pouvait avoir 4 psychiatres dans le public, c'était Mariana au combat, mais j'aimais beaucoup. C'était sportif aussi, je ne suis pas une sportive physique, mais une sportive intellectuelle, je pense quand même.
Je trouve tout à fait dangereux de créer des problèmes et de poser des questions à des enfants qui n'ont pas ces problèmes et qui n'ont pas ces questions-là. Si bien l'éducation sexuelle d'une classe ou d'un groupe me semble quelque chose qui peut ou qui pourrait être nuisible à l'un ou l'autre de ces enfants-là.
On nous tendait un petit peu des pièges. Et ça, c'était le grand argument en général. C'était, vous allez les inciter à avoir des comportements sexuels précoces ou à courir des risques. Alors qu'on essayait de dire qu'au contraire, mieux les gens sont informés, mieux ils peuvent faire des choix, même jeunes. Enfin, et puis, bon, il y avait surtout du côté de la droite chrétienne, je dirais, des oppositions.
Personnellement, moi, je trouve qu'on a besoin de faire d'expérience avant le mariage. Quoi.
Et pour les jeunes filles?
Alors, c'est pas tout à fait d'accord avec lui.
Le mariage.
Le mariage, oui.
Non, moi, je suis pas tout à fait d'accord, mais tout en donnant une restriction, c'est le respect de son corps.
Si l'engagement pour la santé sexuelle de la part de Mariana Barbet vient des milieux religieux, cela ne veut pourtant pas dire qu'elle soutienne toute position de l'Église à ce propos. Loin de là.
Mais on n'était pas de la droite. Bon, j'aime pas caractériser droite-gauche, parce que surtout en ce moment. Mais oui, il y a toute une branche chrétienne fondamentaliste, évangélique souvent, qui défend les valeurs familiales, entre guillemets, parce que c'est comme s'ils étaient seuls à le faire. Enfin... Mais il y avait aussi des personnes engagées dans l'Église qui ont fait partie des commissions d'abord de l'Église et ensuite des institutions qui étaient en train de se créer, notamment le centre médico-social de Profamilia qui est devenu Profa. Il y avait même des gens extrêmement ouverts qui étaient un peu en bisbille avec l'enseignement de l'Église catholique, évidemment, et les papes, mais qui avait une indépendance réelle et qui avait surtout le souci des gens, des personnes.
À Salvan, en terre valaisanne, un prêtre spécialisé dans les problèmes conjugaux a enseigné à ses paroissiens la méthode préconisée par l'Église catholique. Depuis 3 ans, 40 couples appliquent la technique de la courbe des températures.
Monsieur le curé, pourquoi ce travail mené dans votre paroisse de Salvan?
Par le désir, comme prêtre, d'aider les foyers dans leurs propres difficultés.
Non, c'était pas du tout incompatible et heureusement, heureusement.
Il faut dire qu'à cette époque, de nombreux groupes ou institutions se penchent sur la question, chacun, chacune, avec leurs moyens d'action.
Il y avait la santé publique qui s'inquiétait du nombre d'interruptions de grossesse et puis aussi un peu des maladies sexuellement transmissibles qu'on appelait vénériennes à l'époque. Et puis, il y avait les églises qui, comme j'ai dit déjà, se souciaient de l'harmonie du couple et de la montée des divorces. Et ces deux courants, ces personnes qui portaient ces deux combats, on pourrait dire, se sont mis ensemble pour justement créer, en tout cas dans le canton de Vaud et aussi ailleurs, en Valais aussi, avec un appui politique, les différentes institutions qui devaient répondre à ces inquiétudes et ces préoccupations. Et puis, il y avait les mouvements féministes émergents, mais qui restaient des mouvements militants. Alors, je dirais que c'était un petit peu, pas à l'arrière-plan, mais ce n'était pas tout à fait les mêmes personnes avec les mêmes types d'engagement. Mais je pense que le fait d'avoir eu ça à côté a aussi favorisé l'acceptation dans le public de ces différentes actions et de ces institutions subsidiées, subventionnées par l'État.
Et petit à petit, tout ce monde s'organise, se fédère, jusqu'à créer ce qui s'appelle aujourd'hui santé sexuelle, la fêtière des centres de santé sexuelle et des services d'éducation sexuelle dans toute la Suisse.
Ça s'est passé comme ça. Il y avait une association des conseillers en planning familial de Suisse romande, dont j'ai été la première présidente. Et de ce fait, j'étais connue de la Fédération internationale du planning familial, la section Europe. La Suisse n'en faisait pas partie du fait qu'on n'avait pas du tout d'institution fêtière. Donc moi, pendant 3-4 ans, j'y suis allée et en plus, j'étais bilingue. Et comme tout se passait en anglais, évidemment, c'était pratique. C'est pour ça qu'on m'a envoyée, moi. On nous a vraiment dit, vous devez créer une association nationale pour pouvoir faire partie de la Fédération internationale. On a mobilisé quelques personnes de l'association des conseillères. On était principalement 4. Et j'aime toujours dire qu'à 4 bonnes femmes, on a réussi à créer ce qui est aujourd'hui Santé sexuelle Suisse.
Et puis, Marianna le sait, il y a les changements qui se font dans l'intime. Il y a les avancées institutionnelles et il y a le mouvement global de la société. Alors pour mouvoir le plus grand nombre, elle prend la parole médiatique. Elle commence à écrire des chroniques dans les médias papier, dans Femina, et puis on l'invite à prendre part à une émission, à la radio, aux côtés de journalistes de renom tels que Marie-Claude Leburg et Bernard Pichon.
C'était dans le cadre de Pro Familia, l'association vaudoise qui s'occupe de planning familial. Et je crois qu'à cette époque-là, on recherchait quelqu'un qui puisse faire l'interface, en quelque sorte, entre Pro Familia et la radio. J'avais été désigné, et c'est là que j'ai rencontré Marianna Barbet. Et peu de temps après, est née l'idée d'une émission que nous avons animée ensemble, et qui s'appelait Parlons-en, et qui parlait justement de choses dont on ne parlait pas à l'époque.
Couple, famille, sexualité, homosexualité. Ça avait fait un peu de foin quand on a voulu aborder ce sujet. Surtout que je me souviens, dans notre programmation, on ne s'était pas rendu compte que ça tombait dans la semaine de Pâques. Alors je vois toujours Marie-Claude Leburg qui nous a convoqués en disant « Écoutez, si vous devez en parler, ben parlez-en, mais pas pendant la semaine sainte. » Mais on avait beaucoup de liberté, beaucoup, beaucoup de liberté. Et c'était vraiment une année formidable parce qu'on a vraiment... Je pense qu'on peut dire qu'on a cassé pas mal de tabous avec cette émission de radio. Mais on marchait aussi un petit peu sur les œufs, c'était difficile.
Marianna m'a raconté qu'elle a même reçu des lettres de menaces où on lui disait, parce qu'en général ces lettres sont assez triviales, donc on emploie le tutoiement. Si tu continues à parler de ces choses-là, on te fera la peau à la sortie du studio. Enfin, et autre joyeuseté, bravo d'avoir tenu Marianna.
Ça choquait. Tout ce qui touche à la sexualité, c'est très ambivalent quand même. Enfin, il y a un côté sombre. Il y a la haine de la femme. C'est un peu extrême de dire ça comme ça, mais regardez l'histoire Pellicot. C'est juste l'illustration parfaite de ça. Un mépris quand même de ce qui est. Et une peur chez les hommes de la femme, du sexe féminin, du désir féminin. Je pense que c'est quelque chose qui existe très profondément, peut-être dans l'inconscient de la plupart, mais puis il y a beaucoup de violences liées à la sexualité aussi, et aujourd'hui tout ça est venu à la surface, mais c'était déjà là, juste que ça ne se disait pas comme tel. Les abus des enfants, l'inceste, la violence domestique bien sûr, tout ce qui émerge autour de mouvements comme MeToo, enfin... Ça émerge, heureusement que ça émerge, mais ça existait. Et puis les auteurs de ces violences, ils ont peur que ça se sache. Donc parler de sexualité, c'était ouvert la porte. Alors je pense qu'il y avait tout ça, il y avait quelque chose de très au niveau inconscient de cette peur de la sexualité, mais aussi peut-être la peur que des comportements soient mis au jour. Moi, je pense principalement les gens avaient peur, mais que ça ne pouvait pas toujours se dire comme une peur. Oui, il me semble.
Et toutes ces luttes lui valent donc ces quelques savoureux surnoms.
Alors, c'était... Alors, il y a un article dans la presse conservatrice vaudoise qui nous traitait de ravagés du zigouigoui. J'ai reçu une lettre une fois d'un monsieur suisse-allemand qui me traitait de Mutterschwein. Mais plus joli, c'était Lady Sex, c'était évidemment Dr. Ruth Vaudoise, des choses comme ça. Et puis mes enfants m'ont toujours appelée la mère Zizi. Ils le font encore, et puis ça m'énerve. Mais enfin, bon, voilà, c'était leur façon de supporter le fait, parce que c'était pas facile pour eux, je crois, d'avoir une mère qui avait, comme ils ont dit, un drôle de métier.
Malgré l'assurance dont elle fait preuve encore et toujours à 90 ans, elle a parfois pourtant douté.
J'ai souvent dit, quand les gens me demandaient pourquoi vous avez commencé à faire ça, j'ai souvent répondu, ce qui est difficile, c'est de continuer. Donc ça veut dire qu'effectivement, je me posais la question souvent. Et j'ai abandonné pour finir le fait d'être sur le terrain, pas du tout le fait de parler de ces questions, mais le fait d'être sur le terrain. Mais on tenait le coup, alors je dirais deux choses, des collègues, pas tous, mais certains collègues avec qui on formait vraiment une équipe. Et alors on nous a même reproché d'être une secte, mais on n'était pas une secte, on n'avait pas remplacé la religion par la sexualité, tout ça, non. Mais c'est vrai qu'on avait une équipe très soudée, et puis on avait des formateurs absolument exceptionnels. Notamment deux psychanalystes, Pierre-André Glore et René Hennie, qui nous ont formés, expliqués, rassurés et puis outillés pour faire face à ces oppositions. Et le docteur Glore nous disait toujours, tant qu'on aura des critiques aussi bien à droite qu'à gauche, c'est qu'on est dans le juste. Et je pense que c'était absolument vrai.
Modérée parfois, franche certainement, mais pas féministe.
Alors, ce que je dis toujours en réponse à ça, c'est que je n'ai pas milité chez les féministes parce que ce n'était pas mon combat. Et je trouve qu'on n'est jamais très efficace quand on est dans quelque chose qui n'est pas vraiment son histoire à soi. J'en ai fait une fois l'expérience dans un autre domaine et j'ai vite compris que ce n'était pas bien d'être comme ça un petit peu à côté. Mais j'ai toujours soutenu tout ce qui allait dans le sens de ce qu'on appelle l'émancipation féminine, mais enfin des droits des femmes, etc. Il y avait un autre aspect, c'est que pendant longtemps, je n'ai pas pu voter ici parce que j'aurais perdu ma nationalité américaine. Après, la loi américaine a changé et j'ai pu commencer à m'intéresser vraiment à la politique suisse, mais avant, je n'avais pas d'outils pour agir vraiment dans le domaine politique, donc ce n'était pas non plus mon combat. Je pense que ce que j'ai fait de plus important dans ce domaine, c'est la médiatisation, c'est la promotion. Pas seulement du planning familial et des droits des femmes dans ce domaine, mais aussi du droit de parler de sa sexualité, de l'exprimer, le droit du désir féminin. Et c'était ma manière d'être féministe.
Avec le recul, elle se dit que malgré les oppositions, son combat, leur combat, a porté ses fruits.
Bon, les institutions existent. Il y a des endroits où on peut aller parler de ces problèmes. Ce que moi, je n'avais pas quand j'étais jeune femme. J'avais le gynécologue, alors il fallait bien tomber. Ce n'était pas tellement mon cas. Donc ça, c'est indéniablement une grande réussite. Il y a la loi sur le délai, le fait que ce sont les femmes qui choisissent. Ça, c'est une victoire monumentale.
Le 2 juin 2002, le régime du délai est approuvé par le peuple. Il rend toute interruption non punissable durant les premiers mois de la grossesse. Après 30 ans de combats et d'attentes, la Suisse adopte enfin une législation qui garantit le libre choix.
On sait qu'il y a encore beaucoup à faire au niveau du travail, du salaire égal, et puis aussi de toutes ces questions de violence. Ce n'était pas mon combat, parce que ce n'était pas encore au premier plan du tout, même on en parlait très très peu. Maintenant, sur notre action à nous, on ne pouvait jamais mesurer l'impact. Un jour, j'étais allée me faire faire des lunettes, et l'opticien, tout d'un coup, il me dit « Mais vous n'avez pas donné des cours d'éducation sexuelle, vous ?» Et je disais, ben oui, vous étiez où? Ouais, j'étais à Sainte-Croix. Oui, je me souviens, je suis montée à Sainte-Croix. Et puis on a parlé un petit peu. Puis après, je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça vous a apporté? Oh, vous savez, pas grand-chose. Hein. En même temps, ça me paraissait très juste. C'est-à-dire qu'il ne sait plus très bien ce qu'on a raconté, mais il sait que j'étais allée. Il m'a reconnue. Et puis, il a osé me demander si c'était moi. Donc, moi, souvent, j'ai dit, l'important, c'était que nous soyons une présence adulte qui parle de sexualité. Et puis, une compagnie, quelqu'un sur le chemin. Plus que ça, je pense qu'il ne fallait pas avoir trop d'ambition.
Dans le domaine de la santé sexuelle, d'énormes progrès ont eu lieu. Et il ne faut pas les sous-estimer, selon Mariana.
Au point de vue interruption de grossesse, on a un des taux les plus bas du monde, si ce n'est le taux le plus bas. Donc ce sont des victoires énormes. On ne se rend pas compte à quel point c'est important. J'aime rappeler que dans les années 50-60, on pense qu'il y avait 60 000 interruptions de grossesse par an en Suisse, clandestines ou légales. Et aujourd'hui, je crois qu'on est autour de 10 000 qui sont le fait principalement des femmes issues de l'immigration qui n'ont peut-être pas eu les mêmes informations, les mêmes habitudes de pensée ou le même accompagnement, enfin, situation précaire souvent, ou des échecs de contraception, parce que ça, ça existera toujours. Alors, je crois qu'il faut vraiment que nous puissions être très, très fiers comme pays, et je pense que nous, on a apporté notre petite brique, même plusieurs petites briques à l'édifice.
La libération de la parole, celle des femmes en particulier, restera l'un des principaux combats de Mariana. Ce n'est pas pour rien qu'elle ouvrira le premier atelier d'écriture de Suisse romande dans les années 80. Pour s'exprimer, raconter, rendre compte, elle se réjouit d'ailleurs de voir que les jeunes femmes prennent de plus en plus la parole dans l'espace public.
Ah oui. Alors ça, il n'y a pas de doute. J'ai le souvenir des paroissiennes, parce qu'on était en paroisse avec mon mari pendant quelque temps, qui étaient mutiques. Enfin, elles parlaient entre elles. Mais parler en public, non, ça n'existait pas. C'était une élite qui pouvait parler en public, même dans des petits groupes. Et puis là, ça a complètement changé. Alors ça, c'est très très bien. C'est très très bien.
Et puis elle voit aussi que les jeunes garçons parlent davantage de l'intime.
Je me souviens d'une conversation dans le bus où il y avait une bande de garçons qui parlaient de leurs copines de façon très bien, donc pas du tout de façon grivoise ou jugeante. Je me disais, ah ouais, ben c'est bien ça, j'ai failli intervenir. J'étais tellement impressionnée par leur liberté et leur compréhension, la gentillesse avec laquelle ils parlaient de ce qui se passait pour eux dans leur relation avec les filles. Mais en couple, j'espère que ça se passe bien.
Et même si elle a quitté le terrain de la santé sexuelle dans les années 90, il y a 30 ans déjà, désormais retraitée, elle continue malgré tout de thématiser cette question dans un livre très poétique sur la rencontre d'un homme et d'une femme à plus de 70 ans.
Ce livre est d'abord, bon, je l'appelle un roman parce que j'ai transposé pas mal de choses, mais c'est sûr que c'est enraciné dans mon expérience d'un amour tardif. Mais pour moi, c'est quand même d'abord une œuvre littéraire. J'ai apporté beaucoup de soins à l'écriture, à la façon de choisir les éléments que j'allais raconter et à faire en sorte que, je pense, n'importe qui puisse entrer là-dedans. Donc pudeur, discrétion et en même temps dire les choses. Donc c'était le défi de ce livre-là. Et c'est vrai que j'avais le sentiment que les quelques notes que je prenais au cours de cette relation pouvaient devenir quelque chose de plus complet, d'utile et peut-être presque unique, parce que s'il y a aujourd'hui beaucoup de gens experts qui parlent de la sexualité des personnes âgées, il y a à ma connaissance très très peu qui en parlent de l'intérieur comme d'une expérience vécue. Donc j'espère avoir fait aussi une œuvre un peu originale, parce que si on ne fait que de répéter ce que d'autres ont dit, ce n'est pas intéressant.
Comme elle l'a toujours fait, Mariana Barbet met donc des mots sur cette sexualité au grand âge.
Alors bon, ça change, parce que le corps, il a changé. Il est plus lent, il y a vraiment des choses compliquées, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, comme les difficultés d'érection, de lubrification. Il faut rappeler les choses comme elles sont. Hein. On est là pour ça. il peut avoir des choses bêtes. Moi, j'ai une mauvaise épaule, donc je ne peux pas prendre n'importe quelle position dans un lit, hein, même quand je dors. Donc, et puis, il y a tout ce qu'on a vécu avant. toutes les expériences qu'on a pu avoir ou pas avoir. Donc, affronter une certaine nouveauté, avoir confiance dans son corps, surtout s'il y a une longue interruption. Il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup d'obstacles. L'image du corps, beaucoup. Il y a aussi le fait qu'on ne sait pas combien de temps on va avoir devant soi. Et je me souviens que mon compagnon, au début de notre relation, avait écrit une petite lettre une fois dans laquelle il disait « Quoi que l'avenir nous réserve, donc la menace du temps qui passe, bon, que tout le monde vit, mais enfin on le vit quand même un peu plus à 75 ans qu'à 40 ou 50. » Donc il y a tout ça, mais je dirais principalement, bon, le corps qui change d'aspect, donc il faut arriver à ne plus y penser. Je dis quelquefois, il faut remplacer le visuel par le toucher, privilégier vraiment le toucher, tout ce qui est de l'ordre de la sensation, de la peau. Et puis, oublier qu'on a les seins qui tombent et d'autres choses encore. Et puis, cette question du temps, où quand même, avoir une vie sexuelle, c'est un peu oublier le temps, alors c'est bien. Mais entrer dans une vraie relation amoureuse qui comprend la sexualité, c'est vraiment courir le risque du temps qui raccourcit et on ne sait pas si on aura le temps de vraiment vivre cette relation ou pas et dans quelles conditions et ce que va apporter le vrai vieillissement. Mais je pense que c'est important de laisser une grande place au contact physique, quel qu'il soit. Dans toute relation qui vieillit, où on vieillit ensemble, il faut continuer à se toucher et à être proche physiquement. Il faut, j'aime pas dire des « il faut », mais celui-là, je le dis.
Et au final, tout est question de liberté, de parole, de récit, de corps.
Alors, sur mon corps, je pense surtout que j'ai beaucoup appris. En lisant, avec les questions des gens, en discutant avec les gens, surtout dans les années où j'étais active sur le terrain avec les enfants, les parents et les collègues, les échanges qu'on a pu avoir aussi avec les collègues, j'ai beaucoup appris parce que ça n'a pas du tout fait partie de ma culture. J'étais vraiment dans un monde d'intellectuels où le corps n'existait pas et en plus j'étais pas sportive, donc. Je n'avais pas vraiment une très grande relation avec mon corps. Et alors ça a été vraiment précieux. Et ça m'a amené aussi à m'intéresser à la psychologie et ensuite à faire une thérapie. Enfin, c'est tout ça s'est enchaîné. Donc pour ma qualité de vie, ma qualité relationnelle, et puis même pour mon travail comme animatrice des ateliers d'écriture, c'était très, 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 très précieux parce qu'en tout ça, on travaille avec le corps. L'écriture, c'est aussi le corps, ça passe par le corps, par la voix, l'importance de la voix, la mienne qui est maintenant tout éraillée. Ça me désole parce que je trouve que c'est tellement important, la voix. Donc, il y a mille façons d'être une vieille dame. Mais quand j'étais plus jeune, les gens me demandaient « Comment tu vois ton avenir ?» Et je dis « Moi, je vais être une vieille dame rayonnante. » Et puis, j'espère y arriver.
La vieille garde.
Un machin audio de François Clément.
Estelle Pelletier.
Et toute l'équipe technique et subsistance.